Et c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Claude Ascolovitch.
Bonjour Léa.
Et la catastrophe de Mias qui a saisi la presse.
Avec des journaux qui suspendent le temps et l'actualité pour marquer la tragédie, c'est la une du Parisien et de la Dépêche. Pour dire l'horreur, c'est la une de l'Indépendant, de Midi Libre, mais aussi du Télégramme. Mais aussi du Télégramme, bien loin de Mias, dans les Pyrénées-Orientales, où un bus scolaire a donc été brisé en deux, un passage à niveau. On voit dans l'Indépendant de la tôle déchirée dans la grisaille sale d'une horrible après-midi. On y lit les mots de Audrey, dont la petite sœur a vu ses amis sous des draps blancs et des sacs de cours éparpillés un peu partout. On effleure l'hôpital de Perpignan, où une maman vient d'apprendre que son fils est dans un état grave ou très grave. On est Léa dans ces moments où le journalisme doit à la fois inscrire le drame dans une histoire collective, mais se méfier du sensationnel. Nos journaux, Léa, sont délicats, mais ils posent également des questions. Il y a eu 111 accidents de passage à niveau l'an dernier et 31 morts, c'est ce que rappelle le Parisien. Et l'Indépendant recense les accidents qui ont eu lieu sur la même ligne régionale depuis la mort d'un ouvrier agricole dont le tracteur avait été fauché par un train au passage à niveau numéro 36 à Nefiach, c'était en 2004. L'éditorial de la Dépêche s'appelle accablement, je cite, « L'enquête va durer des mois, des années et on conclura qu'il faudrait supprimer les passages à niveau et comme d'habitude, on fera le constat que cela coûte trop cher et demain, après-demain, il y aura à nouveau des morts à un passage à niveau ». C'est le titre de l'éditorial de la Dépêche, accablement, ce jour où nous pensons à des enfants morts.
Et on reste imprégné ce matin par ces enfants.
Et vous verrez Léa, quand on lit la presse, on est presque malgré soi attiré par d'autres articles sur d'autres enfants, ceux-là qui n'ont pas été victimes de l'injustice absolue, des enfants qui vivent et qui bougent et qui ont de la chance. Il y a un petit garçon de 8 ans, c'est dans la Provence, qui s'est évadé de sa cour d'école, mais que la police a heureusement retrouvé. Il y a des enfants qui se battent pour s'en sortir dans des collèges populaires de Strasbourg. Des élèves de Polytechnique viennent les aider à se dépasser. C'est un reportage tonique et optimiste dans Libération. Des enfants d'espoir donc, mais aussi des enfants qui souffrent parce que les adultes ne sont pas toujours courageux. Ainsi, ce responsable d'un collège à Armentières s'est raconté dans La Voix du Nord. Il a dit ceci au petit Arthur, 12 ans persécuté par d'autres élèves depuis la rentrée. « Mais pourquoi tu lui as pas mis une droite ?» Et La Voix du Nord raconte un collège où l'on étouffe les problèmes et un petit garçon détruit en quelques semaines, c'est le mot de sa maman, retiré de l'école en état de stress intense et suivi par un psy, mais au moins Arthur est vivant.
On parle d'un lieu de mémoire dans le magazine du Monde.
M qui sera en kiosque et sur internet cet après-midi, c'est une abbaye normande à Ardennes qui est devenue l'institut mémoire de l'édition contemporaine. On y conserve les archives des écrivains, artistes et penseurs du XXe siècle. Et M raconte ainsi Marine Baudrillard, la veuve du grand philosophe Jean Baudrillard, qui un jour d'hiver a entreposé dans le coffre de sa voiture les dossiers de son mari. « Je suis arrivée de nuit, il y avait du givre et des étoiles dans le ciel. Je me suis dit, c'est tellement beau, c'est là que doivent être ces petits carnets. » Et les petits carnets de Baudrillard ont rejoint les archives de Éric Satie, de Chéreau, de Robe-Grillet et de Duras, et aussi le manuscrit du roman « Une suite française » d'Irène Némy. Mirovski, écrit d'une écriture nerveuse mais abandonnée à la déportation de la romancière. Le reportage s'appelle « Écris et chuchotements », il apaise en ce jour de deuil parce qu'il dit la beauté des continuités quand une abbaye peut devenir l'écrin de vieux manuscrits. On lit, c'est le même sujet en réalité, c'est la même beauté, dans la croix, de jolis témoignages d'artisans qui fabriquent des objets du culte et qui témoignent de la grâce de l'art sacré. C'est notre consolation.
Les journaux qui retiennent encore ce vendredi, Johnny Hallyday.
Et il est curieux, après les demi-teintes d'une abbaye normande, de rencontrer un autre deuil, celui-ci inondé de soleil et de lumière. C'est dans Paris Match, avec les photos de l'enterrement de Johnny Hallyday à Saint-Barth, avec cette famille de blancs vêtus. Et cette lumière s'oppose au même corps qui était vêtu de noir samedi dernier, en l'église de la Madeleine. Match consacre près de 50 pages au départ de Johnny. On pourra trouver indécent les gros plans sur les fillettes du chanteur qui embrassent le cercueil de leur père, ou bien considérer que tout ceci nous appartient aussi. Mais il y a d'autres photos des amoureux de Johnny devant le cortège funèbre. Une grand-mère roqueuse aux lunettes rouges et aux biceps tatoués d'une croix et d'une guitare. Et ces images valent mieux que beaucoup de mots pour comprendre ce qu'était la France de Johnny. Il est dur, une semaine après, de laisser les gens partir. Des passionnés de généalogie, vous verrez ça dans le Figaro, dans le Parisien. Et autre titre, on découvert à Johnny et à Jean d'Ormesson des ancêtres communs à Namur au XVe siècle. Un seigneur Jean de la Malaise et son épouse Marie Smel de Brosberg. C'est curieux, pourquoi pas. Pendant ce temps, la vie s'étonne tendrement que Johnny, ce pêcheur, célébré en l'église de la Madeleine, ait donc ranimé la foi fois ramener le catholicisme au cœur d'une émotion nationale. Ce sont les consolations des croyants. Aux autres, et aussi aux croyants, il reste toujours des nourritures terrestres. On pourra méditer dans M, encore le magazine du Monde, sur le goût de la mer ou comment le plat de poisson nous est venu à l'âme. Et puis il reste aussi, et cela est notre métier, le journalisme, il reste le goût de la vérité qui nous permet d'être dignes. Vous lirez dans Les Jours sur Internet comment le numéro 2 de Canal Plus International a été renvoyé après un reportage sur le Togo, pays, explique Les Jours, où Vincent Bolloré, le patron de Canal, a réalisé, Vivendi compris, un gentil chiffre d'affaires de 5,18 milliards d'euros depuis le début de 2017. Et Les Jours racontent comment l'intérêt immédiat de l'actionnaire est devenu une norme contraignante pour des journalistes prisonniers de leur emploi. Léa, à France Inter, à Radio France, il en est d'autres, nous sommes heureux.
C'était la revue de presse, merci à vous Claude. Dans un instant avec Ali Badou, le retour de nos invités Cédric Villani et Dominique Cardon et vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000, mais aussi sur le Facebook Live de France Inter et sur Twitter avec le mot-clé hashtag le 79 Inter.